Bonjour et bienvenue dans le podcast de Christelle. Christelle, c'est moi, je suis coach et ici on se parle de maternité et d'entrepreneuriat, les deux grandes thématiques qui m'animent au quotidien. Si ces sujets vous parlent, alors bienvenue et si vous voulez soutenir ce podcast pour lui donner une belle visibilité, vous pouvez bien sûr lui mettre des étoiles, des commentaires sur votre appli d'écoute préférée, mais surtout, surtout, le partager à vos amis. Allez, c'est parti pour notre épisode. Hola hola, je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast. Cette semaine, on se parle à nouveau de maternité et je réponds à une question qui a, une situation qui a été celle que vous avez choisie, on peut dire sur Instagram, dans les stories où je fais du coup le mardi, je vais essayer d'instaurer ça, de mettre une boîte à questions et que vous puissiez me poser vos questions et les questions qui ont le plus de voilà de résonance chez un grand nombre d'entre vous, je vais y répondre du coup dans les épisodes de podcast. Je trouve ça chouette qu'on puisse interagir comme ça. Donc comme d'habitude, donc le sujet, je pense que vous le savez, vous avez dû cliquer sur le podcast, sur le titre du podcast, donc on va se parler de quand notre enfant tape. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver tout ce que je vais partager dans cet épisode sur les notes de podcast et notamment un petit outil dont je vais vous reparler qui sont les 5 phrases pour la désescalade. On va se parler de tout ça, je vais expliquer tout ça dans l'épisode que vous pourrez aller chercher sur l'article de blog qui correspond aux notes de podcast sur mon site christellecardeur.com. Donc, de quoi on se parle aujourd'hui? On se parle de quand notre enfant tape et j'ai eu envie pour essayer d'aller un petit peu dans la précision et un petit peu dans le détail des situations, de partir sur une situation qui soit pas hyper généraliste sur quand notre enfant tape, parce qu'en fait, il peut y avoir plein de situations différentes. Il peut y avoir quand notre enfant tape un autre enfant, il peut y avoir quand notre enfant tape un animal par exemple, il peut y avoir quand notre enfant tape ou a des grosses colères et que ses émotions le débordent, mais l'enfant ne tape pas toujours dans ces situations-là. Et il peut aussi y avoir notre enfant qui nous tape, nous, en tant que parents, et enfin son parent qui tape son parent. Et en fait j'ai envie d'aborder ce sujet-là spécifiquement parce que quand moi je me suis retrouvée confrontée à cette situation, eh bien j'ai pas trouvé beaucoup de ressources finalement. Quand je faisais des petites recherches ou quand je lisais des livres, ça parlait souvent de quand l'enfant, notre enfant tape un autre enfant, mais pas tellement de quand l'enfant tape son parent. Et pourtant je vois souvent cette situation en fait se produire chez les familles que je peux accompagner, que ce soit à l'arrivée d'un bébé, pendant une grossesse ou après en fait, il peut y avoir des situations dans lesquelles un enfant va avoir un geste brutal envers son parent et c'est souvent très déstabilisant et parfois on ne sait pas comment répondre à ça, on ne sait pas comment, ça peut aussi s'installer comme une dynamique dans la relation et c'est parfois difficile de savoir comment changer ça. Donc un petit disclaimer avant que je me lance vraiment dans l'ensemble des ressources et de la réflexion que je vais vous dérouler. Évidemment ce que je vais partager là dans cet épisode, d'abord ça reste généraliste parce que je vais m'appuyer sur des exemples, sur des situations que je rencontre avec les familles que j'accompagne, mais évidemment ça reste généraliste parce que précisément quand on fait un accompagnement avec une famille, un rendez-vous avec des familles autour de problématiques parentales, ben on est dans le détail de la situation évidemment. Donc là, dans un épisode de podcast, ça ne peut que rester généraliste. Et puis, comme je le mentionnais juste avant, si c'est une dynamique récurrente dans la relation avec notre enfant, si c'est quelque chose qui s'installe un petit peu, on va voir dans quelle situation parfois ça s'installe, ben ça peut sans doute valoir le coup de prendre un petit rendez-vous justement avec la personne qui vous paraîtra la plus adaptée pour ça, pour transformer cette dynamique. Parfois vraiment une heure de rendez-vous, ça peut déjà mettre en place, on peut déjà révéler des choses qui créent cette dynamique et mettre en place des choses différentes qui font que ça bouge vraiment. Moi j'ai vécu avec mes deux enfants des situations où il y avait une dynamique qui était en train de s'installer, il y avait rien de vraiment grave, mais en fait ça me... je ne comprenais pas la situation en fait. Je vais vous l'expliquer au fil de l'épisode. Donc, quand un enfant nous tape, alors ici je vais parler des enfants, on va dire jusqu'à 12 ans, jusqu'à 10-11 ans. Je pense que après, quand on passe un peu en préadolescence, adolescence, il y a d'autres choses qui peuvent se jouer. Mais là, on va rester sur petite enfance, enfance. On va dire jusqu'à la préadolescence. Je mets pas un âge trop fixe non plus, puisque évidemment cette préadolescence, ces bouleversements hormonaux, ils arrivent à des âges différents. Certains enfants ce sera à 10 ans et demi, d'autres ce sera à 12 ans et demi, et ça varie. Ce que j'observe chez les enfants du coup qui sont encore petite enfance, enfance, c'est que il y a vraiment deux situations, ou en tout cas deux grandes situations, on peut dire, où l'enfant peut en arriver à taper son parent. La première, évidemment, c'est quand notre enfant est en colère et se laisse déborder par ses émotions, cette émotion de colère, et finit par, dans sa colère, avoir un geste de violent, enfin de taper, des fois pas fort d'ailleurs, puis des fois il va au contraire mettre toute son énergie dans ce geste-là. Donc ça, c'est la première situation dont on va largement se parler. Et la deuxième situation dont on va aussi se parler, ce sont des moments hors colère, où le geste de taper, ou le geste d'être tapé par notre enfant, du coup, il peut nous surprendre, parce que rien ne l'explique en fait. C'est pas un moment où l'enfant est en colère, c'est pas un moment où il y a une opposition ou un désaccord entre nous, mais on sait pas ce qui se passe, et puis ça peut survenir comme à chaque fois en fait, mais sans qu'on comprenne pourquoi. Moi, c'est la situation que j'ai vécue, et cette situation-là, et je la vois chez d'autres parents, du coup c'est pour ça que je la prends comme exemple, c'est par exemple un bambin qui va taper au moment où on lui change sa couche, alors qu'il n'a pas l'air en désaccord avec le fait d'être changé. Il exprime pas forcément qu'il est en désaccord, ou peut-être il était un petit peu en désaccord, parce que des fois les bambins à cet âge-là, ils ont tout sauf envie d'aller se faire changer la couche, mais il est pas en colère, il est pas, y a pas eu ce qu'on va voir, le process qu'on voit avec la colère, le processus émotionnel dont on va se parler avec la colère. Mais par contre, il y a cette tape qui arrive, et puis ça peut être très déstabilisant du coup, parce que comme on comprend pas ce qui génère cette réaction de notre enfant, bah du coup on sait pas comment transformer ça. Donc ça, je vais y venir après qu'on ait vu la colère, parce que souvent c'est quand même plutôt d'abord la colère. Et on va se parler du coup maintenant de la colère. Donc un enfant qui va taper, c'est, comme je l'ai déjà mentionné, qu'il est débordé par ses émotions, et en fait il réagit de la manière la plus forte qu'il ait à sa disposition, la plus forte qui soit, sur toute la gamme de réactions possibles au sein de cette émotion de colère, il va réagir par la plus forte. Et pourquoi il fait ça? C'est soit parce que sa colère, elle est trop intense et qu'il se sent menacé, parce qu'en fait la colère, c'est vraiment cette émotion qui vient montrer ou qui survient quand l'un de nos besoins n'est pas respecté, un besoin important à nos yeux, ou quand on se sent menacé, quand on a le sentiment, parfois inconscient d'ailleurs, que notre intégrité physique ou affective, morale est menacée. Et du coup, ben, si un enfant ressent ça, il va nécessairement être en colère, et il peut aller, si cette émotion est très forte, s'il se sent très fort menacé, il va aller jusqu'à l'extrémité qui va être de taper, d'une certaine manière. Donc, cette sensation de menace, elle n'est pas forcément corrélée à une menace que nous, rationnellement, on voit en tant qu'adulte. C'est vraiment la sensation de notre enfant, et du coup, parfois, on ne perçoit pas, nous, que notre enfant se sent menacé, ou que il a le sentiment que son intégrité n'est pas respectée, mais c'est pourtant ce que notre enfant ressent, et c'est ce qui va l'amener à utiliser finalement la plus forte réaction sur toute la gamme de réactions possibles. Ou bien, et c'est encore une autre possibilité, ça peut être parce que son besoin n'a pas été entendu avant, quand il le formulait d'abord avec d'autres signaux. Par exemple, dans un conflit, imaginons un conflit entre enfants, un conflit entre frères, par exemple, eh ben, il peut y avoir eu d'abord des mots qui ont été échangés pour un conflit autour d'un jouet, imaginons. Il peut y avoir eu des mots un petit peu forts qui ont été échangés. Et puis, si les mots n'ont pas suffi à résoudre le conflit, ben, il va y avoir des cris parce que chacun veut défendre son territoire, chacun veut défendre son positionnement, son point de vue, son besoin. Et puis, si les cris ne résolvent pas la situation, et c'est rarement le cas, donc forcément ça va aller à l'étape d'après, ça va être des gestes de menace, et là encore, s'il n'y en a pas un qui cède face à l'autre dans ce rapport de force qui est en train de s'installer, eh ben il peut y avoir finalement un vrai geste avec un impact physique qui va pouvoir se produire. Et ce geste-là, pourquoi j'en parle, même si là, normalement, on était censé se parler d'un geste... d'un enfant qui tape son parent, c'est parce que ce geste-là, parfois, il va être déplacé. C'est-à-dire que si nous, on arrive, par exemple, dans la situation au moment où il y a les cris, ou au moment où il y a les gestes de menace, ben, quand on arrive dans l'espace où il y a la dispute, il se peut que, comme on cherche à intervenir, notre enfant se tourne vers nous et que ce soit nous, du coup, qui reçoive le geste avec l'impact physique. Ce qui, à la limite, est préférable, plutôt que l'enfant s'en prenne véritablement à son frère ou sa sœur. Et précisément, ces gestes-là, ils vont survenir quand on essaye de mettre en sécurité l'enfant, quand il y a une situation de conflit, que ce soit entre nous ou entre enfants. Donc, entre nous, ça peut être par exemple, mon enfant commence à manifester de la colère et je sens que c'est une colère qui va peut-être pouvoir le déborder et on est en extérieur sur un trottoir étroit. Je vais peut-être attraper mon enfant pour le mettre en sécurité, pour pas qu'il se mette en danger avec un geste impulsif d'aller se mettre sur la route s'il y a des voitures qui passent. Et quand j'essaye de prendre mon enfant pour le mettre en sécurité, mon enfant peut à ce moment-là se sentir dans ce « Ah, cette menace, je suis pas respectée » et taper son parent. Ça peut être quand on sépare des enfants du conflit, dans le conflit, ou ça peut être aussi, et là parfois pour nous c'est assez frustrant, quand il y a un conflit, que notre enfant est en colère et qu'on va proposer un câlin, parce que parfois c'est des conseils qui peuvent être proposés, et c'est vrai que certains enfants, ça va les apaiser, qu'on leur propose un contact physique qui va venir resécréter de l'ocytocine, qui va venir un peu contrebalancer cet état hormonal, ce sentiment de colère. Mais en réalité, si l'enfant est déjà trop dans sa colère, bah c'est trop tard en fait, on peut plus le rejoindre à cet endroit-là. Il va falloir justement qu'on fasse ce processus que j'appelle de désescalade. On va s'en parler. Et du coup, si on arrive avec une proposition de câlin ou une proposition super douce en fait, alors que lui, il est dans une colère hyper forte, on n'arrive pas à se rejoindre et du coup, l'enfant peut là aussi se mettre à taper ou avoir vraiment une réaction encore plus violente finalement. Avant qu'on se parle de justement comment on fait cette désescalade, je trouve ça important d'abord de venir rappeler du coup que tout ce processus émotionnel qui conduit l'enfant à avoir un geste violent quand il est en colère, c'est un processus qui est physiologique, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est normal en fait que notre enfant réagisse comme ça dans la situation dans laquelle il se trouve, la situation émotionnelle dans laquelle il se trouve, et ça va être à nous de lui montrer justement comment réagir autrement, et ça va être à nous de faire descendre cette tension et d'amener à cette désescalade dont je commence à beaucoup parler. Mais avant ça, il va falloir qu'on vienne voir ce que ça vient activer en nous, précisément, de vivre cette situation, puisque on est dans une dynamique avec notre enfant, et à partir du moment où on arrive dans l'espace où il y a cette émotion, ben on va être impacté aussi par cette émotion. Et ici, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup beaucoup à cœur. D'ailleurs, j'ai tout un atelier que je donne en présentiel sur ce sujet, donc autour de chez moi, et sur lequel je viens vraiment travailler avec les parents sur qu'est-ce que le fait de voir mon enfant en colère, et surtout si en plus il me tape, ou qu'il me crie dessus, ou qu'il me pousse, ou des choses comme ça, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi en fait ? Et du coup, ce que ça vient activer en nous, c'est qu'en fait, à notre tour, on va avoir notre signal d'alarme qui va s'allumer. Tout comme notre enfant a eu son signal d'alarme qui s'est allumé et qui fait que il répond en fait à une menace, une menace perçue, qui est pas forcément réelle mais qui est perçue. Et nous, en fait, ça va être la même chose. Le fait de voir notre enfant en colère et le fait surtout encore plus, à plus forte raison, de le voir avoir des gestes violents, que ce soit envers nous, envers un autre enfant ou envers lui-même, ça vient allumer un sentiment d'urgence, un sentiment de menace, ça vient déclencher un message de stress dans notre corps. Ce message de stress, il est là pour, dans notre organisme, que notre organisme se prépare à réagir, à se défendre face à ce qui est perçu comme un danger. Donc on voit qu'en fait, notre enfant, finalement, l'état émotionnel de notre enfant nous embarque dans un état émotionnel similaire. Et c'est ça qui est difficile en réalité. Et la toute première chose que nous, on peut faire du coup, c'est de venir prendre conscience de ce qui se passe en nous, de ce que le système d'alarme est enclenché, et de venir désenclencher ce système d'alarme. Parce que tant que notre organisme est dans cet état-là, on va pas prendre les décisions immédiates d'interaction avec notre enfant depuis le bon endroit, d'une certaine manière. On réagit pas du bon endroit, on réagit depuis un espace intérieur de menace et de défense, alors que en face de nous, c'est un enfant qui ne représente pas une réelle menace pour nous, en fait. Mais malgré tout, notre organisme, dans un premier temps, va réagir de cette façon-là. Donc c'est vraiment à nous, quelque part, de prendre conscience de ce qui se passe et de nous ramener au fait que c'est un enfant en face de nous, c'est notre enfant en face de nous, et que on n'est pas menacé. Il n'y a pas de menace immédiate réelle, il n'y a pas d'urgence, et qu'on peut souffler et arrêter, en fait, désenclencher le système d'alarme. Particulièrement ici, je fais une petite parenthèse, mais ça me tient vraiment à cœur et c'est très important d'en parler. Si nous-mêmes on a été victime de violences par le passé, que ce soit en tant qu'enfant, en tant qu'ado ou que jeune adulte, ça peut vraiment faire remonter de manière consciente ou inconsciente ces épisodes de violence où nous on était peut-être dans l'impossibilité de nous protéger et nous défendre. Et du coup, maintenant qu'on est en mesure, en fait, de justement de réagir, d'enclencher et de valider ce système d'alarme, eh bien, en fait, on peut avoir du coup, c'est là, en fait, qu'on va pouvoir avoir des gestes malencontreux et nous aussi se mettre dans une posture où on risque d'avoir une réaction violente parce que ce qui se rejoue pour nous, les émotions qui remontent, ne sont pas proportionnelles en fait à ce qui se passe au moment présent et à la réalité de la situation qui est un enfant qui est en colère en fait. Mais comme ça vient réactiver en nous des situations où on s'est senti menacé et peut-être on l'a été véritablement si on a été victime de violence, mais qu'on était dans l'incapacité de réagir à ces menaces et à ces attaques de notre intégrité physique et psychique, ben du coup on va surréagir par rapport à la situation. Donc c'est assez injuste et terrible, mais quand on a été c'est cruel en fait, c'est terrible et cruel, parce que quand on a été victime de violence, alors que peut-être on s'est promis que jamais on reproduirait ça, ben on a un travail encore plus gros à faire, parce que notre système d'alarme s'allume encore plus fort que chez un parent qui n'aurait pas vécu ces situations dans son passé. Donc ici, c'est vraiment, si vous êtes dans cette situation-là, c'est vraiment hyper important que vous preniez soin de vous dans ce processus, parce que c'est vraiment un challenge. C'est un vrai challenge et ça peut être vraiment difficile. Donc il faut vraiment que vous preniez soin de vous avant tout et que vous trouviez les moyens de vous apaiser avec ça dans l'immédiat, puis peut-être de vous tourner vers une situation plus, une démarche plus long terme, on va dire, pour prendre soin de vous face à ces épisodes du passé, si vous sentez que ça peut être nécessaire et que ça peut vous aider dans votre situation du jour avec votre enfant, enfin, dans cette dynamique avec votre enfant. Il peut y avoir des outils, bien sûr, notamment justement dans l'atelier que je propose en présentiel, on fait appel à des outils qui vont nous aider de manière immédiate et à plus long terme, mais parfois c'est nécessaire d'aller se tourner carrément vers quelqu'un qui va avoir une prise en charge un petit peu plus en profondeur, parce qu'avec le coaching parental, bien sûr qu'on va pouvoir trouver des clés, mettre à jour des dynamiques, des traumas, mais c'est pas l'espace pour les traiter. Donc si c'est le cas, moi je réoriente, si c'est un besoin, je réoriente toujours vers quelqu'un qui va pouvoir aller plus en profondeur quand c'est nécessaire. Et puis ça fait jamais de mal de toute façon, donc c'est toujours un bon réflexe quand on sent qu'on en a le besoin. Je referme cette parenthèse Donc ce travail-là de désenclenchement du système d'alarme, on doit tous le faire, on a tous à passer par là pour pouvoir ensuite de ça être dans une parler du bon endroit en fait avec nos enfants. Et pour certains parents, du coup, c'est un travail qui demande plus d'efforts et plus de ressources que pour d'autres en fonction de notre passé, de notre tempérament, de tout un tas de choses qui nous sont propres. En parallèle de ce processus de désenclenchement de notre système d'alarme, évidemment, on va également veiller à ce que notre enfant soit hors de danger s'il est en colère et pourrait se blesser ou blesser un autre enfant. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, on va séparer les enfants, enlever de la main un objet avec lequel l'enfant pourrait se blesser, l'éloigner de la route si on est en extérieur. Donc, on a vraiment cette double dynamique qui relève en fait du même objectif qui est la sécurité de l'enfant. Parce que si je suis en mode réaction-défense, je peux avoir une réaction inappropriée, inadaptée, comme on l'a vu. Et si mon enfant en colère ou un autre enfant se trouve impliqué dans la situation, ça peut porter à l'intégrité physique ou émotionnelle de l'un ou l'autre des enfants. Donc avant tout, en tant qu'adulte, on doit veiller à la protection des enfants, même face à un enfant qui tape. Ça doit toujours être notre absolue priorité, que l'enfant ne se fasse pas mal, qu'on ne fasse pas mal à l'enfant, et que l'enfant ne fasse mal à personne d'autre. Une fois qu'on est passé du mode réaction au mode protection, on va pouvoir aller vers le troisième mode qui est celui qui va venir faire descendre la situation parce que souvent quand on est dans le mode protection, quand on a réussi déjà à switcher dans ce mode-là, notre enfant est encore vraiment entre en opposition même avec nous. Et donc c'est là qu'on va devoir encore faire un step de plus vers lui en allant vers la connexion, en cherchant à comprendre ce qui se passe pour notre enfant et pourquoi il tape. On peut se souvenir de ce moyen mnémotechnique, la connexion avant la correction. Ici, la correction, c'est de définir que le comportement de notre enfant n'est pas approprié. Donc, par exemple, c'est la correction, ça pourrait être de dire c'est ok d'être en colère, mais pas de taper. Mais avant même cette étape, il va nous falloir entrer un minimum en connexion. Donc, on va avoir encore là aussi un double processus. Le processus de fixer une limite et le processus de connecter avec notre enfant. Ici, c'est important pour moi de vraiment formuler ma pensée avec le plus de justesse possible. En tout cas, je vais essayer de dire que on entend parfois, hein, et puis comme j'ai posé le mot de limite, je veux vraiment clarifier ce point-là, dans cette situation-là en particulier. À mon sens, et j'ai pas ce point de vue qu'on entend parfois, que l'enfant teste les limites dans le sens d'une volonté d'aller chercher la confrontation. Je pense absolument pas que ce soit le cas. Je pense que l'enfant est juste dans son émotion, qu'il est débordé et qu'il sait pas en fait comment réagir autrement et que c'est son propre système d'alarme, son propre organisme qui le pousse à se défendre en fait. Cette violence, elle est une réaction de défense finalement face à une situation qui le met en colère. Donc il n'y a pas de volonté selon moi d'aller tester une limite. Par contre, c'est important dans cette situation que nous en tant qu'adultes, on soit la personne qui va poser une limite. Et la limite c'est, à mon sens, je refuse qu'on me tape, personne n'a le droit de me taper. Et ici, ce qui est important pour moi de clarifier à nouveau, quoi, enfin de continuer à clarifier, c'est que dans ce type de limite-là, à mon sens, on n'est pas dans une limite arbitraire qui va être imposée à l'enfant de manière verticale. C'est pas une limite où on va venir faire preuve d'autorité sur l'enfant. C'est une limite qui est horizontale. Personne n'a le droit de vous taper. Et votre enfant pas plus qu'une autre personne, de même que personne n'a le droit de taper votre enfant, même pas vous, son parent. Et du coup, c'est une limite horizontale qui s'applique à tout le monde dans la famille et qui est comme quelque chose sur lequel on va tous pouvoir s'appuyer et qu'on va tous pouvoir rappeler. Et que vos enfants vont pouvoir rappeler aussi entre eux, si vous avez plusieurs enfants, et que votre enfant va pouvoir aussi rappeler même en dehors de son cercle extérieur, et là c'est super important puisque comme notre enfant apprenne par mimétisme, nous voir poser cette limite-là, la formuler cet interdit d'être tapé, ce refus d'être tapé, ça leur enseigne cette limite pour eux aussi, et ça leur apprend qu'on peut la formuler simplement avec des mots, avec une espèce de fermeté intérieure, de dire Non, je refuse qu'on me tape, personne n'a le droit de me taper, personne n'a le droit de me pousser ou de me pincer ou voilà, de me faire du mal physiquement. Et si, à mon sens, cette limite, elle est vraiment, c'est vraiment important que notre enfant nous l'entende prononcer et sente que c'est depuis l'espace qui n'est plus cet espace, comme je disais tout à l'heure, de la réaction, mais qui est cet espace de la connexion, de « il y a une limite, on connaît tous cette limite, dans notre famille, on ne tape pas, et moi je refuse d'être tapée ». Venant d'une famille où il y a eu beaucoup de violences intrafamiliales, et où j'ai été baignée dans, enfin comment dire, comment le dire simplement, où il y a eu de la violence entre les adultes, entre ma mère et son mari de l'époque, c'est hyper important pour moi de prononcer ça et de dire ces mots-là, que nos enfants entendent, nos enfants garçons, nos enfants filles entendent que maman refuse d'être tapée, qu'on n'a pas le droit de taper maman. C'est vraiment hyper hyper important à mes yeux. Et c'est pour moi une limite qui est tout à fait saine, qui est tout à fait fondatrice du respect d'autrui en fait, tout simplement. Et qui est encore une fois une limite horizontale et pas du tout une limite verticale de l'adulte qui impose avec autorité à l'enfant. C'est quelque chose qui est partagé par tout le monde. Une fois qu'on a posé ça, on va pouvoir aller dans la désescalade dont je parle depuis un moment et qui va nous amener justement à connecter davantage avec notre enfant encore plus parce que là on était quand même dans un mode un petit peu encore de protection. On voit qu'on y va étape par étape très progressivement, même si ça peut se faire très rapidement. D'abord nous on va être en mode réaction, on va passer en mode protection. On va glisser doucement vers « je formule ma limite personnelle ». Et ensuite, qui n'est pas une limite, encore une fois, qu'on applique directement à l'enfant, qui est une limite personnelle de que nous, en fait, on exprime. Et ça, ça fait aussi la différence, même si, évidemment, elle va s'appliquer à l'enfant. Mais ce n'est pas « tu n'as pas le droit de me taper ». Et moi, je pourrais avoir le droit. C'est « personne n'a le droit de me taper, je refuse qu'on me tape ». Et ça, c'est aussi une formule qui implique des choses différentes, même si c'est dans la nuance. Et toujours dans la nuance, justement, on va passer maintenant à la connexion, vraiment. Et on va pouvoir exprimer à nos enfants des phrases de désescalade. Donc j'en ai répertorié 5. Bien sûr, on va les adapter à la situation. Et vous pouvez aller les récupérer dans les notes de podcast. Il y aura un petit lien cliquable pour aller les télécharger. Vous pouvez après les afficher par exemple sur votre frigo ou à l'intérieur de votre armoire si vous avez une armoire qui s'ouvre avec des bâtons. Moi, c'est des choses que je peux faire quand il y a quelque chose que j'applique pas encore de manière un petit peu réflexe, de venir me le mettre sous les yeux fréquemment. Ça aide vraiment notre cerveau en fait à se rappeler quand on en a besoin que ces phrases existent tout simplement. Donc ces phrases, ça peut être, je vais les énumérer et vous pouvez aller les télécharger du coup. Donc je comprends que tu sois énervée, moi aussi ça m'énerve quand, ta 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 ta, donc ça peut être, moi aussi ça m'énerve quand je dois arrêter mon activité préférée, ou moi aussi ça m'énerve quand on me prend un objet que j'adore, ou ça peut être moi aussi ça m'énerve quand, voilà, vous vous adaptez à la situation. Deuxième possibilité, je ne vais pas me fâcher, je veux comprendre ce qui se passe. Donc même si on a été tapé et qu'on a posé une limite, on va dire « je ne vais pas me fâcher ». On rassure notre enfant, on fait descendre la menace. « Je ne vais pas me fâcher, je veux comprendre ce que tu ressens, je veux comprendre ce qui se passe pour toi ». Ça c'est la deuxième phrase. Troisième phrase, « je suis de ton côté, on est une équipe ». Quatrième phrase, « tu as le droit d'être en colère, ça arrive à tout le monde de ressentir ça ». Et ici, on vient normaliser ce sentiment. On vient exprimer à notre enfant que, voilà, que tout le monde ressent ça parfois et qu'on va trouver une solution, que c'est légitime de se sentir en colère, on n'interdit pas la colère, tout le monde peut sentir ça. Et après, on va pouvoir basculer vers la solution ou en tout cas encore la désescalade, on va le voir. Et cinquième petite phrase, on va trouver une solution ensemble. Donc ici, toutes ces phrases, selon les situations, elles tendent à aller dans le sens de l'enfant et de raccrocher au fait que son émotion est normale, qu'on ne rejette pas cette émotion, qu'on ne rejette pas l'enfant, qu'on va être de son côté, Alors évidemment, si par exemple c'est dans une dispute entre frères et sœurs, dire à l'un « je suis de ton côté, on est une équipe », ça va pas fonctionner parce que c'est l'autre enfant qui va se sentir lésé. Donc on va pouvoir dire « on est tous une équipe, on va trouver une solution ensemble, je veux comprendre ce que chacun ressent, vous avez le droit d'être en colère, ça arrive à tout le monde de ressentir ça, je ne vais pas me fâcher, je veux comprendre ce qui se passe pour vous, etc. » Et quand notre enfant sent qu'on cherche à le comprendre et que on l'exprime depuis cet espace de calme intérieur, ou en tout cas, même si on n'est pas la moine zen bouddhiste ou quoi, qu'on peut parfois se représenter comme parent idéal ou quoi, en fait, on n'est plus dans cet état de système d'alarme, on est dans un état plus calme, on a nous-mêmes désescaladé notre colère. Et du coup, notre enfant, ça, il peut le ressentir, même s'il le ressent pas forcément immédiatement. Mais si on connecte, s'il ressent notre calme, si il intègre qu'il y a le cadre qui est posé, avec cette limite que personne ne sera tapé, que personne ne sera grondé, qu'on est là en posture de désescalade, qu'on tient cet espace-là, alors, et seulement alors finalement, il va pouvoir exprimer ce qu'il ressent avec des mots. Et ici, c'est important de spécifier que ces mots-là, peut-être que ce sera des mots forts. Peut-être que ce sera des mots, s'il est un peu plus grand, par exemple, il va peut-être pouvoir dire des choses comme « je m'en fous » ou il va peut-être crier, il va peut-être jeter un objet en même temps. Mais ça, c'est déjà une phase de désescalade. Parce que déjà, il n'est pas en train de taper. Il est déjà en train de formuler, même si c'est en l'accompagnant avec un geste qui peut être plus violent que l'état habituel, on peut dire. Et c'est déjà un signe positif. Souvent, on voudrait, on s'attendrait ou on aimerait que l'enfant passe du « je tape » à « je suis tout à fait calme et j'expose mon problème posément », ce qui n'est pas en fait humainement possible. Hein. Déjà, même pour des adultes, c'est quand même compliqué quand on est en colère et qu'on en est à cette dernière étape du geste physique. J'espère que en tant qu'adulte, on arrive on va dire, allez, 99,9% du temps à ne pas aller jusque-là. Mais si on va, par exemple, claquer une porte ou jeter un objet sur, jeter un coussin ou quoi, ben on va pas passer de cette étape-là à « ok, je suis en mesure d'expliquer calmement mon problème et de me mettre en phase de recherche de solutions ». On a besoin d'être encore dans de la désescalade et de laisser notre organisme redescendre petit à petit, et ça peut parfois prendre vraiment du temps. Ce temps-là, c'est important qu'on l'offre aussi à notre enfant, parce que notre enfant, en plus de ça, non seulement il a le même fonctionnement que tous les autres humains et que nous aussi évidemment du coup, mais en plus il est un enfant, donc son cerveau est plus immature que le nôtre. Donc il a vraiment besoin qu'on lui laisse ce temps-là de redescendre étape par étape. Si par exemple on le voit jeter un objet et que nous ça nous remet dans notre état de colère et ça nous rallume en fait ce système d'alarme, c'est important que à nouveau on se prenne par la main intérieurement en se disant « ok, je sens que là, ouf, ça me challenge à nouveau, donc je redescends, moi aussi, je ne suis pas menacée, c'est qu'un coussin, c'est qu'un jouet, c'est qu'un... voilà, c'est déjà un signe positif, parce que déjà c'est une étape de la désescalade, et c'est déjà précieux du coup. Et c'est que une fois que notre enfant se sentira entendu et compris, si par exemple notre enfant il crie « mais je veux pas aller à la douche » et que nous ça nous active à nouveau notre colère et que du coup on se met nous aussi finalement à répondre sur le même mode. En fait là du coup on repart dans l'escalade. Tandis que si on arrive à dire « ah ok donc là en fait tu veux pas aller à la douche et c'est ça qui te met en colère parce que t'étais en train de faire un jeu que t'adores et que t'as pas envie d'arrêter, c'est ça ?» Ben là notre enfant il se sent entendu, il se sent compris, et c'est là qu'il va vraiment pouvoir commencer à s'apaiser et qu'on va voir les signes de la colère progressivement se transformer pour révéler probablement une autre émotion qui peut être de la déception, de la frustration, de la tristesse, de la jalousie, toutes sortes d'autres émotions qui en fait, parce qu'elles n'étaient pas entendues, ont amené notre enfant à basculer dans la colère. Et c'est vraiment ce mécanisme-là, en fait, qui va pouvoir faire en sorte que petit à petit, parce qu'on accompagne notre enfant étape par étape et que nous, on est dans cet endroit émotionnel de la désescalade, que par mimétisme, par neurone miroir, notre enfant va être capable, à son tour, de le vivre de plus en plus facilement et de plus en plus rapidement, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que notre enfant sera plus jamais en colère, ni même qu'il ne nous tapera plus jamais. Et en fait, l'objectif, c'est pas que notre enfant soit plus jamais en colère, c'est qu'il arrive à ne plus aller jusqu'à cette dernière étape, cette dernière extrémité du geste agressif, mais qu'on arrive en fait ensemble à commencer la désescalade avant cette étape-là. Et c'est ce qui va permettre à notre enfant plus tard, quand on sera pas dans l'espace où ça se produit, de par lui-même commencer cette désescalade, s'arrêter avant d'aller trop loin, et commencer cette désescalade de son côté, le plus en autonomie possible. Voilà. J'ai l'impression d'avoir déjà dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, d'être allée assez loin finalement dans cet épisode. Et encore une fois, voilà, je pense que peut-être pour finir cette partie-là, je vais passer après à quand c'est pas dans le contexte de la colère que notre enfant tape. C'est vraiment important pour moi de repréciser que l'une des choses qui va vraiment nous aider, c'est d'accepter que tout ça est normal en fait. C'est d'accepter que les enfants ont ce comportement-là, que c'est dans leur développement logique, physiologique, normal, et que notre rôle, c'est pas d'empêcher absolument cette situation qui est normale, c'est de l'accompagner dans tout ce processus que je viens de dérouler pour que, avec le plus du coup de bienveillance possible envers lui. Et cette bienveillance, on peut être bienveillant tout en posant une limite justement, tout en posant un cadre, tout en amenant étape par étape. Mais cette bienveillance, en fait, c'est justement ce regard de dire « mon enfant ne fait pas quelque chose de mal, mon enfant vit un processus émotionnel naturel ». Et je vais l'accompagner dans ce processus. C'est ça la bienveillance en fait. C'est pas de dire, de trouver des excuses à notre enfant ou de dire bah c'est normal, les enfants tapent, tous les enfants font ça, puis juste de s'arrêter là. Non, la bienveillance c'est aussi d'apprendre à notre enfant, d'enseigner à notre enfant à devenir plus indépendant émotionnellement en étant capable d'abord avec nous de vivre ce processus de désescalade pour qu'ensuite il soit capable de le vivre aussi en autonomie et pourquoi pas plus tard de à son tour être peut-être la personne qui va pacifier des situations aussi autour de lui quand il sera un petit peu plus grand à l'école avec des copains. Moi je sais que par exemple donc tout ça prend du temps, hein. Je fais une petite digression. Tout ça prend du temps. Évidemment, dans la vraie vie, donc là c'est dans la théorie et dans les situations idéales, on fait ça. On essaye de faire ça en tout cas. Dans la vraie vie, j'ai tout à fait conscience, parce que je suis une maman moi aussi, j'ai tout à fait conscience que quand on est en train de préparer le repas, quand on doit donner la douche à notre plus jeune, ou quand on est préoccupé par une facture à payer ou un souci en tout cas, même si c'est pas forcément un souci, une préoccupation professionnelle ou une préoccupation avec notre famille élargie ou quoi, on est moins disponible pour ça. En fait, on a nous aussi toutes nos autres émotions qui viennent s'imbriquer dans le processus, qui viennent faire obstacle quelque part à ce processus. Et là, c'est vraiment important qu'on vienne se questionner sur, ok, là, quelle est ma priorité? Est-ce que ma priorité, c'est... Et ça peut ne pas l'être. Est-ce que ma priorité, là, c'est de finir le repas parce que sinon, on va manger à pas d'heure et où le repas va être brûlé et je vais devoir tout recommencer. Et mon enfant est déjà fatigué, donc en fait la priorité ce serait vraiment qu'il aille au lit, parce qu'en fait c'est vraiment ça sa problématique actuelle, plus que la colère on va dire, c'est qu'en fait il est épuisé. Donc là peut-être que notre priorité ça va être de dire ce sera tout ce processus là, ce sera pour une prochaine fois, et là on va juste mettre notre enfant en sécurité, nous mettre en sécurité, si je peux dire les choses comme ça, et se concentrer sur le repas. Si on se dit que là, on a un petit peu de temps devant nous, que c'est possible de prendre ce temps-là, et je vous encourage quand même le plus souvent possible, dans la mesure de la réalité de la vie, à faire ce choix-là, parce qu'en fait, c'est ça qui, petit à petit, c'est quand même un investissement. Au plus on prend le temps de faire ça, au plus notre enfant va le faire rapidement, quand on va enclencher le processus, et au plus il va être capable de le faire tout seul petit à petit. Donc c'est quand même un super investissement, on peut dire, un super investissement sur notre charge émotionnelle en tant que parent, et un super investissement pour la vie de notre enfant plus tard, parce que comme j'allais le dire du coup avant de faire cette digression, moi j'ai beaucoup fait ça avec mes propres enfants, et le retour qu'on me fait hyper souvent, c'est que ils sont hyper dans la résolution de conflits, en fait. Ils vont vachement facilement observer les sentiments des autres. En fait, ils sont dans une école Montessori et il y a des cours d'empathie. Et la prof de cours d'empathie m'a dit, est venue me voir en fait un jour et m'a dit, mais vos enfants, il se passe quoi en fait avec vos enfants? Donc après, je lui ai expliqué ce que je faisais, mon travail, et du coup, elle a compris que voilà, qu'il y avait un accompagnement sur ces thématiques-là vraiment au sein de notre famille. Mais du coup, voilà, c'est des choses qui après vont se voir aussi à l'extérieur et qui vont avoir un impact aussi sur ce que nos enfants vont créer à l'extérieur dans leurs relations, dans leur environnement. Et ça, c'est un cadeau qu'on leur fait aussi, et c'est un cadeau qu'on fait aussi pour leurs relations futures, en fait. Voilà, donc je ferme vraiment cette partie-là de quand notre enfant nous tape, quand il est en colère. Je redis une dernière fois de vous apporter de la douceur, de vous apporter de la bienveillance à vous aussi, parce que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, c'est un challenge à chaque fois. Et pareil, plus nous aussi on va faire ce processus avec nos enfants, plus ça va être simple. Et c'est pour ça aussi que s'afficher des petites phrases, s'afficher des petites choses qui vont nous aider avec des moyens mnémotechniques, ça vient nous soutenir en fait dans ce processus-là. Donc allez télécharger les petites phrases via les notes de podcast sur le blog christellecardor.com. Maintenant je bascule dans la deuxième situation où, et là c'est plutôt des bambins je dirais qui vont faire ça, enfin c'est rare quand même qu'on le voit chez des enfants un petit peu plus, voilà, au-delà de 3 ans, ça reste quand même... Ça peut arriver, mais on va dire c'est moins quelque chose qu'on voit communément. Par contre, chez les bambins, ça arrive tellement, tellement, tellement souvent qu'un enfant tape sans qu'il soit dans ce processus émotionnel de colère et qu'il tape son parent hors de ce processus émotionnel de colère. La situation dont je parlais, l'exemple dont je parlais, c'est quelque chose que moi j'ai vécu avec mes enfants, que beaucoup de familles peuvent vivre à différents moments et avec, on va dire, des variations sur la même thématique. C'est les coups de pied, donc très sympathiques, coups de pied dans le ventre, on est à hauteur là, si on a une table allongée. Les coups de pied, et même en fait sur un lit, ça peut arriver aussi, coup de pied au moment du change de la couche. Donc, très 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 agréable, n'est-ce pas? Surtout que quand Sol a commencé à faire ça, j'étais enceinte de Milo, et je me suis longtemps demandé avant de trouver en fait cette dynamique là. Je me suis longtemps demandé si c'était lié à ça, parce que je me disais mais c'est fou, il a jamais fait ça, et là je suis enceinte et bim, il se met à me donner des coups de pied dans le ventre quand je change la couche. Donc parfois on va aussi se faire des projections et comme on cherche à comprendre pourquoi notre enfant fait ça, on va formuler des hypothèses qui parfois sont pas du tout... on va chercher beaucoup plus loin en fait parfois que ce qui se produit. Donc là, ce que j'aurais envie de vous proposer comme petite piste, donc encore une fois, évidemment, c'est très généraliste, il faudrait aller dans le détail, essayer de voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les situations, etc. Mais quelque chose qu'on peut aller explorer comme piste, c'est vraiment, est-ce que notre enfant ne cherche pas juste en fait une forme d'interaction? D'aller en fait être dans ce jeu où il va vouloir mettre en place en fait un jeu de un petit peu d'opposition, un jeu de force avec nous, et un jeu où il vient un petit peu nous chercher en fait, mais pas chercher négativement, j'arrive pas à trouver le bon mot, je l'ai sur le bout de la langue, où en fait vient nous titiller, voilà, il vient nous titiller, vous savez, dans ce jeu de je vais venir titiller maman pour faire qu'on soit dans ce petit jeu là où on se titille. Et en fait, moi ce que j'ai mis en place, et ce que je recommande, enfin une piste qu'on peut aller explorer en famille, c'est du coup d'essayer de remplacer cette interaction du coup de pied qui n'est pas du tout agréable par un autre type d'interaction qui va être un petit peu plus sympa, on va dire. Donc moi par exemple, quand ce que j'ai fait, c'est que l'interaction qu'on a choisie, enfin que j'ai choisie du coup pour notre famille, c'est de tirer la langue. Et c'est rigolo parce que ça reste quelque chose qui est quand même provoque en fait. Mais du coup ce que je faisais, c'est que j'attrapais les pieds de Saul, du coup, gentiment, hein, mais voilà, je l'empêchais de taper. Je formulais toujours cette phrase « On ne tape pas maman, maman refuse d'être tapée ». Et je disais, mais quelque chose comme, alors je me souviens plus les mots exacts, mais ce que je propose souvent comme piste, c'est « Mais par contre, donc je bascule directement sans trop d'explications parce que ça reste des bambins à 2 ans, 1 an et demi, voilà, 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi. On n'est pas à leur faire des grands discours sur le respect, il faut pas taper, tu me respectes pas. Donc oui, on va formuler, on tape pas maman. Mais par contre, si tu me tires la langue, attention, je vais te faire plein de guilis. Et là, ça ne loupe pas. Notre enfant va généralement se mettre du coup à tirer la langue, on va passer en mode guilly. Et si on... Donc ça demande de le faire quand même un certain nombre de fois parce que notre enfant a besoin d'intégrer ce mécanisme-là. Enfin ce mécanisme, cette dynamique qu'on lui propose. Et en fait c'est très rigolo parce que aujourd'hui encore, donc Saul qui a maintenant bientôt 9 ans, et ben quand il veut qu'on entre dans ces jeux un petit peu où on se titille, où on va faire une bataille de polochon ou des guillis, ou être un petit peu voilà comme dans le... Ah, on va un petit peu au combat entre parents-enfants, mais c'est des combats, voilà, guillis, coussins, etc. Ben, il fait ça, en fait. Il continue de tirer la langue. Et Milo a vécu exactement le même processus. Et beaucoup de familles que je peux accompagner me témoignent que, ah oui, en fait, quand on trouve autre chose, ça résout ce problème des coups qui sont dans des contextes complètement hors colère, en fait. Et je trouve ça en fait ben simplement de l'observation, de comprendre que nos enfants n'intègrent pas que ça fait mal en fait, n'intègrent pas que c'est quelque chose qu'ils font à l'autre en fait. Ils sont basés sur eux leur envie d'interaction, eux leur envie de communiquer, et ça passe, ça s'exprime d'une manière voilà qui pour eux n'a rien de problématique. Et du coup, là encore, c'est pas qu'ils sont en recherche de limites ou en quoi que ce soit, mais pour autant, on peut poser la limite de « je refuse qu'on me tape, maman ne veut pas être tapée, on n'a pas le droit de taper maman », mais on bascule directement sur « par contre, on peut aller jouer, ça, il n'y a pas de souci pour ça ». Une question que je peux poser aussi parfois quand c'est un petit peu, voilà... quand j'ai du mal à analyser la situation, que je peux proposer qu'on pose, c'est de s'arrêter dans ce qu'on fait et de dire « mais tu veux me faire mal ?» de poser la question, en fait, sous l'angle de ce que nous, ça va nous faire ressentir. Parfois, c'est compliqué pour les enfants quand on va leur dire « mais toi, imagine, si on te tapait, est-ce que tu serais content, etc. » C'est déjà une grosse abstraction pour un enfant de cet âge-là, de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça me ferait si moi on me le faisait dans ce contexte-là. C'est dur de se projeter. Par contre, quand on leur demande directement « mais tu veux me faire mal ?» souvent, en fait, la réponse est non. « Mais non, maman, bien sûr que je veux pas te faire mal. Non, je veux pas faire mal. » Et nous, ça nous permet, pouf, de comprendre, voilà, que il n'y a aucune volonté de faire mal à son parent, c'est juste que il y a une interaction qui est désirée par l'enfant et qui le formule d'une manière inappropriée, quoi, tout simplement. Et donc on va lui faire des propositions sur « Ah, tu veux pas me faire mal ? Peut-être tu veux jouer, du coup. » Et on n'a même pas besoin de dire « Peut-être tu veux jouer. » On peut directement passer à « On va jouer. » Et nous enclencher un jeu, nous enclencher quelque chose. Et du coup... on n'a pas forcément besoin de faire une grande leçon de morale à nos enfants sur le fait de taper. Le fait de dire « je refuse d'être tapé », finalement ça suffit quelque part en soi. Parce que l'enfant intègre que on ne tape pas, que c'est pas quelque chose qu'on fait. Et le fait de passer directement à autre chose, ben ça permet, hop, de se dire, de pas cristalliser là-dessus, de pas figer notre enfant sur tu tapes et c'est pas bien de taper et du coup tu fais un truc pas bien et de partir dans un discours là-dessus. Nos enfants sont souvent hermétiques au discours. Ça veut pas dire qu'ils comprennent pas ce qu'on peut leur expliquer. On peut l'expliquer dans d'autres situations, par exemple avec un support de livre, mais en le décollant de la situation qu'on vit actuellement entre notre enfant et et le parent, quoi. En fait, en disant papa et maman, avec ma langue qui fourche, ça me fait penser que ça peut être quelque chose, par contre, qu'on va venir utiliser comme référence ou comme modèle, de dire, ben, même quand il y a des conflits, tu vois bien qu'il peut y avoir des... Justement, quand notre enfant est un petit peu plus grand et qu'on peut interagir un petit peu plus, si notre enfant un peu plus grand, dans un moment de colère, nous claque la porte au nez ou même nous tape, ça peut arriver, même quand ils sont plus grands, hein, qu'ils aient encore du mal à gérer certaines grosses émotions, et que plutôt que de taper un plus petit frère dont ils ont intégré, ou une plus petite sœur dont ils ont intégré qu'ils n'avaient pas le droit de taper parce que c'était vraiment... ça mettait l'enfant en danger, se tourne vers la personne qui a plus de force et qui pose le cadre et qui est son parent, du coup. Et du coup... de venir ici, je m'interromps parce que je vois mes enfants du coup dans le jardin, ils sont avec leur papa, pendant que j'enregistre cet épisode. Ça m'a décollé de ce que j'étais en train de dire. Ah oui, du coup de pouvoir dire, ben voilà, dans les conflits, quand on discute à froid de comment on règle les conflits, voilà, de situations dont on peut... On peut voir par exemple une situation entre enfants dans un livre qui a mal tourné ou quoi, puis si on en parle, ou dans un dessin animé, voilà, n'importe quel support. Puis de montrer des contre-exemples, par exemple papa et maman, quand on est en désaccord, quand on se dispute sur, par exemple, on n'a pas vidé le lave-vaisselle correctement, ou on n'a pas rempli plus exactement chez nous, c'est ça, je remplis très mal le lave-vaisselle selon Ben, et il me fait fréquemment des remarques à ce sujet, et ça m'agace très fréquemment. mais pour autant, voilà, c'est pas grave, on va pas aller dans l'escalade avec ça, on sait qu'on s'agace mutuellement avec ça, c'est comme ça, il y a des choses dans la vie qui sont plus graves que ça, heureusement, et du coup, on peut se servir de nos petits conflits internes dans la famille pour montrer, voilà, on ne fait pas forcément, on n'a pas besoin d'aller plus loin, en fait, on va plutôt, au contraire, essayer d'aller dans la désescalade. Voilà, je suis revenue un petit peu, malgré moi, dans cette vers la colère. Donc, encore une fois, quand c'est des enfants très jeunes et que c'est hors contexte de colère, c'est souvent, il faudrait aller explorer, pas forcément toujours de manière vérité absolue, mais c'est souvent une recherche d'interaction, et en basculant dans le jeu, en expliquant qu'on ne tape pas et en basculant dans le jeu... dans le jeu joué, du coup, ça permet de venir transformer la dynamique et que cette dynamique-là ne s'installe pas durablement. Et souvent, ça vient tout simplement débloquer la situation. Encore une fois, ça va pas se faire du jour au lendemain, parce qu'il faut que notre enfant l'intègre et ça lui prend du temps. Et ça nous demande à nous d'avoir une cohérence dans la réponse qu'on apporte. Mais par contre, une fois que c'est intégré, après, le problème disparaît complètement. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, ce que j'avais noté, que je voulais dérouler dans cet épisode. Encore une fois, vous pouvez retrouver tout ce que je partage là dans les notes de l'épisode sur le blog à christellecardeur.com, télécharger les 5 phrases de désescalade pour les afficher chez vous et commencer à les intégrer pour pouvoir vous en servir au moment opportun. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que cet épisode vous aura été utile, qui vous aura proposé des pistes, qui vous aura rappelé des choses que peut-être vous savez déjà, mais que parfois ils font du bien de réentendre. Et puis, si vous êtes localement proche d'Avignon, eh bien, vous pouvez vous inscrire pour l'atelier. Pour ça, vous me faites un petit mail, ou je mettrai un lien sur dans les notes de podcast également. Donc, vous pouvez vous inscrire si vous en avez envie pour l'atelier. On va venir explorer vraiment comment on accompagne la colère de nos enfants avec de la pratique. En fait, on passe de la théorie à la pratique, on peut dire, dans cet atelier-là. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence sur ce podcast. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao.